Courant porteur. Initiative et résilience d'un territoire.
Un temps pour découvrir des personnes, des projets et dynamiques qui se passent maintenant et à côté de chez vous.
Un temps pour décrypter des sujets de fond, comprendre et donner du sens.
Une émission mensuelle présentée par Elisabeth Lucan et Ludovic Jiquel, cofondateurs de Senescence.
Une association qui accompagne la création d'entreprises dans le Val-de-Saône. Bonjour, auditeurs et auditrices de Caladma Radio. Bonjour Ludovic.
Bonjour Elisabeth.
Aujourd'hui dans Courant Porteur, notre sujet, les tiers-lieux. Cette chose étrange, mais néanmoins de plus en plus répandue sur notre territoire français. Donc première partie, on accueille deux porteuses d'initiatives de tiers-lieux dans le Beaujolais Pierre Doré, rien que le nom fait rêver. Donc Gwendoline Kaiser, bonjour Gwendoline.
Bonjour Elisabeth.
Et Fiona Pinelli, bonjour Fiona.
Bonjour Elisabeth.
Ça, ce sera notre première partie. Elles vont nous parler de leur parcours, comment elles en sont venues là, où elles en sont, de quoi elles ont besoin. Et deuxième partie, sujet de fond, tiers-lieux toujours. Là, on va rentrer sur la définition, des chiffres, et puis également le retour de deux journées dédiées aux tiers-lieux qu'on a faites sur notre territoire, Val-de-Saône, Azergues, Calade. Voilà, prêt à démarrer.
Merci de nous inviter.
Merci.
On commence par toi, Gwendoline, ça te va ?
Très bien, parfait.
Traditionnellement, dans cette première partie, on parle de parcours, de rêves, de points de bascule. Et là, comme vous êtes deux, je vous propose de me raconter peut-être le rêve à l'origine, ton parcours et dans ce moment, s'il y a eu des points de bascule.
Merci de me donner ce temps de parole. Effectivement, le rêve à l'origine, alors on peut remonter loin. Parce que je me rappelle avoir balbutié finalement, être venue dans une famille où on voyait loin, on voyait beaucoup ambition. Et moi, mon rêve, c'était d'aider des gens au quotidien. Et en tout cas, j'avais vraiment envie de contribuer à mettre en lien ces gens-là pour les faire s'en sortir. Et puis surtout pour avoir une action un peu plus humaine et profonde que ce que j'ai eu un petit peu dans mon parcours. Mais voilà, donc j'y reviens. Et c'est ce rêve-là aussi, ce rêve de pouvoir faire des choses incroyables avec du simple. Et notamment la cuisine. Moi, ça m'anime, ça me passionne depuis toute petite. J'ai toujours grandi dans des cuisines où ça sentait le beurre, comme je dis. J'aime la générosité et j'aime faire partager ça. Donc voilà, c'est un peu mon rêve de me dire comment est-ce qu'on peut mêler finalement l'humain, toutes les rencontres de différentes cultures, différentes personnes, différents niveaux sociaux aussi, pour s'élever ensemble et puis pour faire demain créer un monde meilleur pour nos enfants et puis pour nous, bien évidemment.
Ça fait rêver.
Sous le papier, j'espère que dans les faits ça le sera au cas aussi.
Et du coup concrètement, ton parcours ?
Alors concrètement mon parcours qui est passé par un parcours assez classique au départ où je suis partie dans le commerce, on m'a dit t'es très douée pour ça, tu verras, t'as un très bon bagou, vas-y tu aimes convaincre, t'es forte. Donc je suis partie dans le commerce, dans la gestion de projet, on va dire, et le médical, donc avec dans une entreprise qui quand même m'apportait beaucoup de, on va dire, de sens, et je pouvais avoir un impact qui était assez important, où en fait je sensibilisais les équipes soignantes à intervenir mieux sur des patients et sur des pratiques, enfin en tout cas sur des interventions d'urgence. Donc finalement j'aidais à sauver et à contribuer à sauver des vies par le biais de mise en place de laboratoires, ce qu'on appelle de simulation. Donc j'ai même, comme on était vraiment on était porteur de projet au niveau de cette entreprise à mission, et on avait souhaité pouvoir faire connaître la simulation au-delà de juste notre territoire. Moi, j'étais basée sur le territoire sur le nord-est, et j'ai eu vraiment à cœur
de
le reste de la France, pardon, c'est vrai. J'ai vécu quelques années à Nancy, justement, sur le début de ma carrière, où j'ai eu la chance de prendre en main finalement tout ce territoire-là, où j'ai découvert des gens profondément attachants, authentiques, qui font confiance aussi. Et finalement, c'est aussi un peu mes gènes, puisque Kaiser vient d'Alsace-Lorraine, donc J'étais un peu sur les traces de mon territoire, en tout cas familial. Et je suis contente d'être revenue aujourd'hui, finalement, à côté de Lyon, puisque c'est là où j'ai grandi et je suis installée. Donc, on parlait des pierres dorées et du Beaujolais. Et voilà, c'est un territoire qui m'est cher et pour lequel j'ai envie de contribuer en milieu rural, d'apporter une solution. Mais ça, on va en discuter un petit peu plus tard.
Et ce sont deux territoires de vin, et je crois que tu es connaisseuse également.
Oui, connaisseuse et passionnée également de vin, qui vont bien avec tous ces petits mets qu'on peut cuisiner. Voilà, donc une première partie de mon parcours plutôt dans la gestion de projet, et une deuxième partie après, où j'ai eu la chance finalement d'accompagner mon père, qui a fondé un cabinet de recrutement RH, on appelle chasseur de tête. C'est un mot
communément
voilà, qui a une signification qui ne me plaît pas trop. Et en fait, ce n'était pas du tout de cette manière-là qu'on œuvrait, puisqu'on avait un cabinet de recrutement qui s'appelle Hommes et Valeurs, que j'ai porté pendant 8 ans, donc que j'ai repris, dirigé, pour lequel j'ai eu la chance de recruter Fiona et finalement de rencontrer Fiona dans cette aventure. Il y a 3 ans, elle vous en touchera deux mots tout à l'heure.
Peut-être.
Et voilà, donc on a pendant 8 ans finalement accompagné des entreprises qui avaient des besoins dans toute la France pour trouver les bonnes personnes, donc les accompagner à rayonner un peu différemment avec des vraies valeurs. Voilà, pour aller au-delà d'une rencontre, mais faire en sorte que cette rencontre elle soit le plus durable possible.
Et donc 8 ans de chasse de tête, donc de recherche de profil pour du recrutement pour des entreprises qui sont dans
tout
le besoin. Et là, un autre point de bascule.
Et oui, un autre point de bascule. En fait, c'était souvent des périodes de 6 ans, je ne sais pas si ça a un lien. Et aussi suite à 2 burn-out, donc questionnement de sens, de me dire est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que finalement ça va avec mes convictions, avec mes tripes. Et j'ai répondu non à ces deux questions. Donc je me suis dit, il faut que j'avance aussi dans le sens que je souhaite et le sens que j'avais quand j'étais petite, dans mon enfance, que j'ai retrouvé aussi grâce à son naissance et à cet accompagnement qui est très très riche, qui m'a porté et qui continue de m'apporter. Et c'est que le début d'une longue vie à son naissance et au territoire.
Et donc est né ce projet de tiers-lieu. Et on va y revenir, on va donner la parole à Fiona aussi, qui est la deuxième ligne, mais vous êtes toutes les deux au même endroit, au même niveau, il n'y a pas de hiérarchie, voilà.
Non.
Pas de deuxième et de première.
Non, c'est
Fiona.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille avec Gwen, c'est sur le même piédestal et ça a toujours été quelque chose de très important pour nous. Moi, j'ai un parcours un peu plus atypique. Moi, j'avais un petit parcours bien tracé dans la grande distrib, parcours qui a longtemps animé mes journées.
Tu faisais quoi dans la grande distribution ?
Alors moi, j'ai fait plusieurs choses dans la grande distribution. J'ai été chef de caisse, j'ai fait de la caisse, j'ai été préparatrice de commandes. Je travaillais dans un drive. J'ai fait autant du picking magasin, ce qu'on appelle, ou picking entrepôt. Voilà, donc j'étais très très dynamique, pleine d'envie, sauf que un problème de dos qui exige un peu de s'arrêter. Quand le dos dit stop, généralement ça couaque un peu, donc je me suis orientée vers une carrière un peu RH. Vous allez sûrement me demander pourquoi ce choix.
Forcément,
simplement parce que je voulais rester sur le terrain en fait. Et en fait, pour moi, le RH...
RH, ressources humaines. Voilà, gestion des ressources humaines.
La gestion des ressources humaines, on est un peu la voix de l'employeur, mais aussi celle du salarié. Et c'est ce qui me permet, en fait, de vraiment garder un pied dans la réalité. Chose qui est ultra importante pour moi, parce que ça nous permet aussi de voir ce que sont les gens, comment ils évoluent. Et qu'est-ce qui m'a fait dire de m'engager avec Gwendoline, tout simplement reconversion professionnelle, j'y connaissais rien du tout. Après 10 ans de grande distribution, je me suis formée toute seule. Et j'ai fait un apprentissage et en fait j'ai trouvé Gwendoline. Donc c'est ce qui m'a fait dire aujourd'hui pourquoi cette voie, c'est cette rencontre et un constat en fait sur le monde actuel. Du coup aujourd'hui, j'ai un autre parcours, hein, parce que je ne suis plus avec Gwendoline, parce que Hommes et Valeurs, forcément, elle n'est plus là. même s'il est bien ancré au fond de moi et il m'a permis aujourd'hui d'avoir les compétences que j'ai. Moi, je pars plus sur un terrain, je suis en master maintenant, donc je continue mes études. Donc moi, je suis encore sur cette voie un peu d'apprentissage. Mais projet tiers-lieu qui me tient aussi à cœur, on va en parler un peu plus en détail en vous racontant pourquoi on en est là, mais Sonaissance m'a beaucoup, beaucoup aidée sur moi-même, à me découvrir, à me donner beaucoup plus de confiance aussi en moi que je n'avais pas forcément. J'ai beaucoup appris avec Gwendoline, on ne va pas se mentir. J'ai beaucoup appris aussi avec Sonaissance, surtout sur moi. J'ai appris un métier avec Gwendoline, j'ai appris à aussi un autre aspect de moi-même, parce que forcément, quand on change de métier, on a toujours un peu cette crainte de se dire « est-ce que j'ai bien choisi ?» Et en fait, elle a été vraiment cette voie de sagesse qui a fait que je me suis dit « je suis au bon endroit, en fait, au bon moment et au bon endroit. »
Donc, si je résume, 10 ans de grande distribution.
Oui, 10 ans de grande distribution.
Tu avais fait un diplôme de comment, de quoi avant ?
Alors, moi, je n'étais pas du tout prédestinée à la grande distribution. En fait, j'ai fait un CAP petite enfance de base. J'étais censée travailler avec les enfants. Donc, rien à voir du tout, sauf que je suis devenue maman
très tôt.
Ouais, je suis devenue maman très tôt. Je suis devenue maman tôt. Et forcément, j'avais moins de patience pour ma fille, qui aujourd'hui, moi, est très grande. J'avais moins de temps pour ma fille. Et là, je me suis dit, non, c'est pas du tout possible. Donc, je suis partie dans la grande distribution. J'ai un peu touché à tout. Alors, j'ai mon chef, pour faire un petit aparté, m'a appelé le couteau suisse.
Okay.
Donc c'était très drôle, mais non, ouais, j'étais pas du tout prédestinée à la grande distrib de base.
Ok, donc CAP petite enfance, 10 ans de grande distribution.
10 ans de grande distribution.
Tu décides de te faire une alternance, donc une licence.
J'ai fait d'abord un bac. J'ai fait un bac à RH. Okay. J'ai passé un bac à RH toute seule. Parce que
Assistante des ressources humaines,
exactement, à RH. J'ai décidé de pas être en apprentissage et de ne pas faire de stage parce que je sortais d'un burn-out et d'arrêt sur arrêt. Ouais, j'ai fait un gros burn-out parce que quand vous avez la maladie que j'ai, les douleurs un peu chroniques.
De dos dont tu parlais.
Ouais, de dos que je parlais. Moi, c'est devenu du chronique. C'est une maladie qui aujourd'hui m'a longtemps
handicapée.
Ouais. Et du coup, j'étais souvent très mal parce que on n'arrive pas à avancer. Et forcément, le métier n'est plus en adéquation. Donc, on se dit, je vais faire quoi ? Et là, c'est compliqué.
Et donc, assistante des ressources humaines. Mais tu ne t'es pas arrêtée
non,
là.
Non, je ne me suis pas arrêtée là.
Puisque tu trouves Gwendoline et là, tu fais une licence, de ressources humaines en alternance.
Mmh.
C'est ça ?
Exactement.
Hein ? Ouais. Que tu as validé l'année dernière.
J'ai validé l'année dernière, oui.
Et là, y a le projet qui arrive en même temps et qui mûrit en même temps, à toutes les deux, quand on vous a accompagnés en parallèle.
Exactement.
Chacune, Gwen avec Ludo et toi avec moi.
Oui.
Et c'est posé la question pour toi à ce moment-là de est-ce que je poursuis la ligne de diplôme, enfin la ligne de comment dire, formation initiale dont on parle.
C'est ça.
ou de t'investir dès maintenant directement dans le projet tiers-lieu. Et toi, je pense que c'est un bon choix. Tu as tout à fait le choix de poursuivre en master.
Oui,
et donc là, tu viens de démarrer.
Exactement. Je démarre
une alternance à nouveau.
Yes. Avec totalement différent parce que je suis dans une agence d'intérim. Donc c'est quoi, complètement différent de ce que je faisais avec Gwendoline chez Hams & Valeurs.
Ah, mais c'est fait partie, une grande partie du job. Hein.
Exactement. Exactement. Donc du coup, je suis plus que chasseuse de tête. Je fais aussi du placement candidat. Donc c'est complètement différent, mais c'est la continuité aujourd'hui des ressources humaines sur lesquelles j'ai été formée.
Tout à fait, c'est notre aspect de l'éventail.
Exactement.
Et du coup, on en vient à ce projet aujourd'hui.
Mmh.
Alors laquelle parle, les deux?
Aujourd'hui, il avance plutôt bien. Alors, Gwen pourra peut-être plus vous en parler que moi parce qu'elle est un peu plus sur le sujet en ce moment que moi, mais elle va très bien vous en parler.
Très bien. Peut-être avant de rendre la parole, Gwen, de dire qu'un projet de tiers-lieu, c'est un projet qui peut prendre du temps et qui va prendre du temps. Et donc, tout l'enjeu de l'équilibre financier, même personnel, prend tout son sens. Et on va le comprendre parce qu'effectivement, tu vas nous dire.
Alors effectivement, le tiers-lieu, moi, je m'y mets depuis, on va dire, je l'ai en tête depuis 10 ans. Je crois qu'il se définit maintenant. Comme tu dis, Elisabeth, ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il faut rencontrer les bonnes personnes. Donc Fiona et moi, on a initié, en tout cas, on a mis en place cette initiative. Et on a vraiment souhaité en fait, partir de ce que Sonnaissance nous apportait, du territoire, des constats du territoire, et dire quels sont les besoins et qu'est-ce qui nous anime demain pour mener à bien ce rêve commun. Et ce rêve commun, on s'est dit que bah, déjà, il fallait qu'on soit plus nombreux à porter ce souhait, plus nombreux, plus connectés, qu'on puisse bah, faire avancer les sujets et créer un collectif. Un collectif parce que, bah, en fait, on a vraiment l'intention d'apporter pour notre territoire un lieu, en fait, créer un lieu de vie, un endroit qui soit chaleureux, qui nous permette de nous retrouver, partager, d'imaginer ensemble un futur durable et plaisant, voilà, au cœur de sujets que sont donc l'alimentation durable, puisque c'est, on en a parlé tout à l'heure rapidement, c'est une de mes passions, et j'aimerais pouvoir offrir en fait à mon entourage et à mon village ou au village voisin la possibilité de se retrouver autour de ce sujet-là et de faire bouger les lignes finalement de la société à terme, puisque je crois que faire tiers-lieu, c'est aussi changer un petit peu nos habitudes et regarder le monde autrement.
Ce que j'ai noté et retenu de ce que tu as dit, hein, c'est la proximité. Faire de l'incroyable avec du simple. La générosité et le partage. Et puis cette mixité de cultures.
Ça, c'est très important pour moi, effectivement, cette diversité, de pouvoir aussi échanger, parce qu'on ne connaît pas notre voisin, on ne connaît pas avec qui on parle, et finalement, on se fait souvent des idées préconçues.
Alors, il y en a qu'on connaît, et d'autres qu'on ne connaît pas, effectivement.
Et quand on les connaît, on a l'impression de bien les connaître, et finalement, on ne se connaît pas toujours. Donc, passer du temps ensemble, et puis ouvrir ces lieux-là, finalement, à plus de solidarité aussi, puis à un fond beaucoup plus social, moi, ça me rendrait vraiment très, très heureuse.
Est-ce que tu as...
Non, je pense qu'elle a tout dit. Hein. C'est authentique, véritable, à l'image du tiers-lieu, je pense.
Des prochaines étapes.
Et ben alors les prochaines étapes, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'imaginer ce lieu de vie. Alors si on parle un petit peu plus concrètement, on parle d'un café, d'un resto, d'une épicerie. En tout cas, c'est autour de ces pôles-là que vont s'articuler le tiers-lieu, en tout cas qu'on imagine. Et on voudrait créer de l'animation aussi pour tous, que ce soit vraiment un lieu interculturel et intergénérationnel.
Donc que ce soit un réel incubateur de liens sociaux.
Tout à fait. Et les prochaines étapes, eh ben, on continue d'être accompagné. On a la chance d'avoir encore l'accompagnement de Sonnaissance.
Et oui.
Donc on est ravis de pouvoir aussi réfléchir à le proposer au collectif, puisque bah, finalement maintenant on fait partie d'un groupe et on a envie d'avancer ensemble pour faire émerger ce tiers-lieu. Toute la route est super belle aussi, tu disais tout à l'heure, on parlait de vision lointaine, de prendre du temps, mais chaque étape en fait est assez magique, puisque on voit prendre forme ces idées, ces valeurs. On s'est posé sur un socle commun et on se dit qu'est-ce qu'on veut vraiment faire pour notre territoire, quoi. Et les prochaines étapes, c'est continuer de discuter avec aussi les collectivités, les politiques, d'autres partenaires, trouver des subventions pour pouvoir financer, peut-être trouver un lieu également. Un local coup de cœur dans lequel on puisse s'installer autour de Hans, la Chassagne. Ouais, si vous avez... connaissance.
L'appel est lancé.
Je vous invite à nous contacter vite, puisque je pense qu'on peut développer ce territoire ensemble, avec vos idées aussi, le co-construire, et c'est ça qui est chouette.
Donc, les étapes, ça a été votre rencontre à toutes les deux. Vous êtes rentrées dans l'accompagnement Sonnaissance, chacune avec un parcours individuel, pour bien déterminer quelles étaient vos couleurs, vos envies, votre personnalité, vos contraintes aussi, vos paramètres de vie. On voit que donc Fiona, elle est partie finir son cursus de formation en ressources humaines, mais qu'elle va venir nourrir, mettre au service aussi du projet commun. Toi, Gwen, dans le même temps, Tu as commencé à prendre un premier job partiel.
Oui.
Parce qu'il faut durer, en fait, et que c'est important d'avoir une belle vie avec un bon équilibre personnel également. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ce que tu as fait au mois de juillet.
Bien sûr. Vas-y, je t'en
Donc, tu t'es mariée au mois de juillet également.
Elle a dit oui.
Elle a dit oui. C'est une femme d'engagement.
C'est sûr que j'avance, là. Après 12 ans de vie commune, il était temps de,
de se marier.
De signer. Deux enfants. Okay.
C'est vrai qu'il y a déjà deux enfants, vraiment.
Oui, oui.
Et puis, tu as également amené autour de toi... Trois autres personnes ? Quatre autres personnes ?
Oui, collectivement, là, on est six à peu près.
C'est ça.
Des personnes que je n'avais pas forcément imaginées, mais qui sont arrivées.
Et qui sont très, très actives.
Et qui commencent à... On est vraiment dans la même... En tout cas, la même idée, c'est de déjà d'œuvrer ensemble et de faire en sorte de se revoir toutes les trois semaines pour réfléchir à comment est-ce qu'on continue de développer, quels acteurs on... Voilà, comment on crée du lien aussi, on parlera peut-être un petit peu plus dans le fond du tiers-lieu sur les différents partenaires qu'on peut trouver en local ou au niveau national. Et voilà, c'est de bien s'entourer, je pense, qui fera qu'on arrivera à créer ce tiers-lieu.
Oui, et moi je suis touchée par ce parcours-là, d'être parti de votre propre envie et que là, ça vient de diffuser sur un groupe cœur, on va dire, un peu plus large qui vous dépasse, et que aussi vous ayez bien en tête les temporalités qui sont longues, et pour trouver faire en sorte qu'un tiers-lieu puisse vivre sur la durée, c'est aussi prendre la mesure de il faut y aller progressivement, il faut constituer une dynamique territoriale, donc c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Avec la tête sur les épaules, s'agissant des chiffres, parce que les modèles économiques sont loin d'être évidents, et il y a la créativité, on en parlera juste après. Et aujourd'hui, il y a cette dynamique encore naissante, elle est, je trouve, prometteuse, en tout cas sur votre territoire.
Mmh. Merci.
Est-ce que vous diriez que... parce que c'est le moment, rapport à son naissance... T'as dit connaissance de toi, Fiona.
Ouais.
Et en même temps, tu l'as dit aussi toi, Gwen, qu'il y avait des jours qu'il vous restait encore. On a prévu effectivement des journées collectives pour accompagner l'émergence, la forme et les étapes du projet. Le fait d'avoir fait des parcours individuels pour vous réunir et faire émerger ces différentes activités de base que vous vouliez mettre dans le tiers-lieu, quelle était l'âme et le cœur de ce tiers-lieu ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ce parcours qui n'est pas fini. Vas-y.
C'est toi qui
parle.
Je la vois lever son petit doigt.
Bon, je vais du coup parler pour moi. Je te laisserai aussi.
On parle chacune de notre côté.
Déjà, j'étais très étonnée de voir comment on pouvait se connaître aussi profondément. Et puis, vous, de votre côté, avoir cet accueil. Ce non-jugement et cette envie de on fait avec toutes les forces que vous avez, et comment est-ce qu'on vous accompagne pour voir encore plus que vous pouvez, votre potentiel, et le développer. Et ça, c'est d'une puissance qui est assez incroyable. Et c'est pas à pas, c'est vraiment très très vous avez construit un super joli parcours qui nous permet à la fois de, même dans ces moments individuels, de rester en collectif tout en avec ces journées collectives, en s'inscrivant au niveau de l'incubation, mais après, derrière, quand on lance le projet, moi j'ai vraiment l'impression d'être d'être accompagnée, tout en donnant beaucoup aussi de ma personne pour faire émerger nos idées, et qu'elles deviennent de plus en plus concrètes, et qu'enfin qu'elles soient réelles, et qu'on puisse un jour
qu'elles aboutissent,
ouvrir la porte de ce tiers-lieu.
Super. Oui, c'est une réelle découverte, parce que on s'attend pas du tout à parler de soi, pour être honnête. Enfin, moi, c'était pas du tout le terrain sur lequel je pensais aller. Franchement, je me rappelle avoir dit à Wendeline, mais t'es sûre qu'on va...
J'ai pas envie de parler de moi,
t'es sûre et tout, je les connais pas. et puis à quoi, je me rappelle avoir dit, même dit, mais t'es sûre que ça va nous servir quoi, pour ouvrir le tiers-lieu, parce que franchement, je comprenais pas, je vois pas le rapport en fait. Et en fait, ici, il y a un réel rapport. En vrai, on se rend compte que il faut vraiment que ça soit un projet concret, et il devient concret à la fin, en fait, de A à Z. On se rend compte que c'est hyper important, parce que c'est pas un projet pour être un projet. Et c'est ça qui est beau avec Sonaissance, c'est que on se rend compte que ça devient un projet de cœur, que tout est entendu et toutes nos idées en fait sont mises en musique. Et ça, c'est beau. Et c'est ce qui est super important, en fait. C'est ce qu'il faut se rendre compte à la fin, c'est que c'est hyper important dans un projet de tout mettre en musique. Et c'est là où moi, j'avais beaucoup apprécié. Et j'apprécie encore d'être accompagnée par vous deux, parce que c'est vraiment... ça fait vraiment plaisir. Et en fait, il y a ce suivi régulier, il y a ce... on est vraiment entendus, on est vraiment écoutés, on prend vraiment le temps de tout mettre sur le papier, et en fait on se rend compte qu'à la fin le projet il est déjà bien construit, et qu'en fait on a juste à mettre là où il faut, dans les bonnes cases, et de se dire on va avancer, et ça avance bien en fait.
Et il est construit, je rajouterais même plus qu'il est construit par rapport à nos tripes en fait, par rapport à ce qu'on a mis dans ce projet là de nous, et qui nous permettra de durer, parce que finalement sont vraiment nos valeurs, et c'est ce qu'on a choisi pour notre avenir et l'avenir de notre territoire, et
l'avenir ensemble. Une conscience,
exactement. Non, mais il y a une réelle conscience à la fin.
Donc merci.
Merci.
C'est la classe. La classe, pas pour nous auto-congratuler, ou alors collectivement, mais la classe, parce que je trouve ça... Enfin, nous, on est extérieurs quand on vous accompagne. Et la classe de voir toute la belle énergie, toutes les belles valeurs de cœur que vous y mettez. Et vous avez les yeux qui brillent. Je sais pas si... Forcément, les auditeurs, les auditrices ne voient pas, mais...
Ils n'ont pas le son, l'image.
C'est dommage.
Voilà. En tout cas, ça s'entend dans votre voix. Le sourire, le pétillement, l'envie et tout ce qui est beau dans ce que vous avez envie de mettre en œuvre.
Et honorer le chemin singulier qui est le vôtre pour aller vers votre rêve et construire un bric à bric en changeant, en étant changé, en vous autorisant à changer à travers ce parcours.
Et comme quoi on peut être complètement soi-même, mais ensemble.
Exactement.
Allez, on enchaîne sur le sujet de fond.
Les tiers-lieux.
Le tiers-lieu. C'est pas le plus important. Ah non. Vos parcours sont hyper importants. Parce que la définition d'un tiers-lieu de manière théorique, quelque part, on s'en moque. L'important, c'est de le vivre et de le faire vivre sur nos territoires.
Mais alors, qu'est-ce qu'un tiers-lieu ?
Ça, c'est Ludo qui nous recentre. Alors, un tiers-lieu, qu'est-ce que c'est ? Donc, ce terme tiers-lieu est anglo-saxon. Alors, with the accent, a third place. A third place, défini au départ par le sociologue Ray Oldenburg à la fin des années 80. De manière simplifiée, on le définit comme un lieu où les personnes se plaisent à sortir et se regrouper de manière informelle, situé hors du domicile, donc qui est la first place, et du lieu de travail qui est la second place. Donc ce sont des lieux du faire ensemble. Donc c'est des leviers d'innovation grâce aux espaces partagés qu'ils offrent, des lieux de rencontre et de partage qui encouragent aux collaborations et aux projets collectifs. D'abord, c'était des projets métropolitains, mais le phénomène a vite gagné les territoires ruraux avec les petites et moyennes villes et les quartiers de banlieue. Ils sont une majorité en dehors des grandes villes déjà en 2021.
Avec une définition comme ça, on comprend qu'il y a plein de tiers-lieux différents. Et ça peut vraiment être plutôt dans l'associatif, plutôt dans le travail. Hein. Une forme d'hybridation, mais il y a vraiment plein de formes possibles.
Alors, hybridation, ça veut dire hybride, ça veut dire plusieurs mixtes, avec des activités différentes, possibilités différentes. Espace de coworking, friche culturelle, Fab Lab, tiers-lieu nourricier, autant de noms qui représentent à la fois une grande diversité, mais un commun, quelque chose de commun, qui est de mutualiser des espaces et des compétences pour faire différentes activités. L'idée, c'est de réunir un collectif, en général de citoyens, c'est-à-dire des personnes lambda comme vous et moi, qui sont engagés donc à travers ces activités, souvent par le cœur, potentiellement par les tripes et par la tête. L'idée, c'est de se rencontrer, de favoriser la coopération pour répondre à des enjeux de leur territoire. Quelques chiffres qui datent de 2023. La ressource vient d'un organisme France Tiers-Lieux. Ce mouvement des tiers-lieux a pris tellement d'ampleur qu'il a commencé à se structurer. Il y a même des régions françaises qui ont décidé d'avoir une politique d'installation de tiers-lieux et de mailler leur territoire régional de tiers-lieux. Donc on peut noter la France Tiers-Lieux, donc c'est celui d'où je tire ces chiffres. Et puis il y a également la coopérative de tiers-lieux sur lequel il me semble, en tout cas on vous mettra la référence d'une infographie avec les grandes étapes pour créer un tiers-lieu. Ça peut être toujours hyper utile de se référer à ça. Donc en 2023, en France, ils ont recensé plus de 3500 tiers-lieux quand même.
Waouh! Jamais vu!
62% sont en dehors des métropoles. Un tiers est déjà en ruralité. Ça représente quand même 882 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et plus de 30 000 structures hébergées et emplois directs. Ça veut dire qu'effectivement, vous l'aurez compris, il y a un lieu dans lequel il y a plusieurs activités qui sont hébergées ou qui emploient directement des gens.
On donnera quelques exemples un peu plus tard dans l'émission de tiers-lieux très locaux et de voir comment ils sont organisés, quelles sont leurs thématiques.
Donc tiers-lieux, j'ai dit que c'était forcément un lieu, mais et pas forcément.
Puisque c'est d'abord, selon certains, ça désigne d'abord une communauté de personnes, finalement. Et qu'un tiers-lieu peut être en ligne. Et que, bon, il y a quand même un enjeu très clair à ce qu'il soit ancré sur un territoire, sur un lieu physique, où les gens peuvent se rencontrer, voir et créer du partage, créer du commun. Mais il y a une vraie dimension de communauté qui est en amont.
Oui, c'est deux éléments extrêmement importants. Et si on veut faire un lieu physique, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si vous avez le lieu mais pas la communauté, ou la communauté et pas le lieu, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Qui plus est, si les activités dans ce lieu ne correspondent pas à un besoin du territoire, ben ça ne sert à rien non plus, quoi. En général, ça vivote. Voilà.
Donc on l'a vu, le tiers-lieu peut prendre différents noms en fonction de leur destination, en fonction de leur usage. Je pense par exemple à Satonécamp, il y a un tiers-lieu qui se présente davantage comme étant café associatif, qui mêle effectivement des activités de loisirs, mais aussi un espace de coworking, voilà, des événements plus ou moins pro, plus ou moins associatifs.
Et en Vallée d'Azergues, à la Mure, il y a un quartier métisseur qui se veut plus... Il y a un café associatif, mais il y a un beau programme culturel tout au long de l'année.
Il y a quelque chose d'un peu exploratoire là, qui émerge depuis quelques... du coup, voilà, alors, pas les années 80 en France, mais voilà, ça fait bien 10, 15, 20 ans maintenant qu'on en entend parler et de plus en plus. Et ça permet de sortir, on va dire, du carcan des modèles traditionnels et de voir des nouvelles opportunités de relations. Un espace où des usages, des rencontres peuvent se faire et qui donne plus de coopération, qui permet de mutualiser par exemple des outils Un exemple très traditionnel, c'est effectivement celui du Fab Lab avec la fameuse imprimante 3D, qui est évidemment trop, trop coûteuse, trop onéreuse pour être détenue par un particulier. Pour autant, à un endroit comme un tiers-lieu ou une sorte de laboratoire, il devient de plus en plus intéressant de pouvoir le mutualiser avec d'autres personnes.
Il y avait un tiers-lieu qui s'appelle le tiers-lieu d'ailleurs à Amplepuy aussi, où ils mutualisent. Un atelier de bois.
D'artisanat de bois, oui.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment propre à l'équipe, c'est propre aux besoins, au matériel, à la grandeur de l'espace disponible. Et on a fait deux journées l'année dernière. Une première plutôt avec des sachants. On avait un architecte, deux architectes d'ailleurs. Et on a fait venir un juriste. Non, pardon, trois architectes et un juriste. Et on a travaillé avec eux et des personnes qui étaient intéressées par des projets, constituer des projets de tiers-lieu, sur qu'est-ce qui était important en termes de, effectivement de définition, d'usage, de comment on démarrait seul ou en collectif et d'étapes.
Et en quelques mots, ce qui peut ressortir, c'est l'enjeu de l'accueil du public ou pas, de la place de la communauté. Est-ce qu'elle... Elle est en amont ou est-ce qu'elle se constitue autour d'un lieu, on va dire. Et c'est souvent un peu les deux en même temps. L'enjeu aussi de s'intégrer dans un territoire avec avoir le soutien d'une collectivité, c'est presque essentiel, obligatoire, surtout pour des plus petites collectivités. Et bien penser les différents usages en fonction du lieu, de la volonté de la communauté. Il y a quelque chose qui est souvent aussi, encore une fois, je dirais exploratoire, de comment faire et puis observer en faisant. Et quelque chose qui est agile et qui vient... il y a des choses qui émergent et des opportunités à saisir... qui vont effectivement orienter le tiers-lieu d'un côté ou à un autre.
Il y a quelque chose qui est important aussi dans l'histoire qui va se tisser, c'est est-ce que je veux partir seul ou est-ce que je veux partir à plusieurs ? Parce qu'il y a des tiers-lieux qui naissent à partir d'un patrimoine immobilier, d'une personne qui a un lieu. Mmh. Elle est propriétaire et du coup, qu'est-ce qu'elle veut partager ? Et comment ça va se passer ? Est-ce que c'est la location ? Est-ce qu'elle va ouvrir ce patrimoine aux autres ou pas ? Est-ce que la collectivité locale, elle est partie prenante ? Des fois, c'est la collectivité qui met à disposition un lieu. Et comment, du coup, les gens s'en emparent ? Partir seul ou en collectif, il y a vraiment là aussi quelque chose qui est assez fédérateur. Dans l'aspect juridique et de l'achat ou de la location, c'est aussi hyper engageant, hyper important. Et ça peut prendre pas mal de temps, comme des fois se faire dans une rencontre, comme vous avez eu à un moment donné. Alors, on ne sait pas la suite de l'histoire, parce que ce n'est pas encore écrit. Mais effectivement, sur une des communes dont on parlait tout à l'heure, il y a un lieu qui est disponible en plein cœur du village, qui pourrait être idéal.
Qui se prêterait très bien, effectivement.
Et les temporalités sont différentes selon qu'il faille faire des travaux ou pas, selon qu'on a envie de passer sur les normes des établissements recevant du public, qui a des vraies contraintes, ou si on est en dessous des seuils d'accueil associatif. Typiquement, en dessous de 50 personnes, c'est bien plus simple, par exemple. Donc voilà, il y a toute cette ingénierie de projet, finalement, potentielle, s'il y a un vrai... projet constructif ou de rénovation. Et là-dessus, effectivement, la place des architectes, c'est ce qui nous rappelait à l'époque où on a fait cette journée, est centrale.
À plus de 170 mètres carrés, en plus l'architecte est obligatoire. S'il y a de l'ERP, c'est-à-dire de l'accueil public obligatoire, c'est d'autant plus important. Et puis, il faut voir le PLU, bien sûr, et avoir un certificat d'urbanisme. Mmh. Ça, c'est quelques détails techniques qui ne sont pas négligeables, parce que ça prend du temps. Et si, en plus, on est dans des pierres dorées, potentiellement, c'est classé. Donc, architecte des bâtiments de France. Si on veut faire simplement des travaux pour ouvrir, ne serait-ce qu'une cour, un mur, une façade d'autant plus.
Du point de vue des formes juridiques que peuvent prendre ces beaux objets, ces ovnis parfois, On est, voilà, sur la plupart, sont structurés en association. Loi 1901, voilà, qui est simple à construire, qui a une fiscalité avantageuse et qui met en avant effectivement l'intérêt général. Donc c'est trois tiers-lieux sur cinq sont sous cette forme, tandis qu'il n'y en a qu'un quart qui sont sous forme de sociétés commerciales, qui ont aussi leurs intérêts et qui vont peut-être plus mettre en avant une offre de services, donc plus dans l'économie et une fiscalité plus classique. Et il y a également, voilà, de nombreux tiers-lieux chouettes qui sont sous forme coopérative et qui, voilà, on en parle souvent ici, des coopératives à courant porteur. Cette forme d'une gouvernance aussi horizontale, en tout cas démocratique, et voilà, une lucrativité limitée, et on est à la fois dans l'intérêt général et dans la possibilité de vendre des produits et des services sans trop de limites. Donc voilà, le côté tiers-lieu, c'est encore une fois cette hybridation, ce mélange entre la maison et le travail, bah, fait que ces formes-là, typiquement les coopératives, peuvent être vraiment intéressantes. Voilà.
Peut-être que c'est important aussi de signaler qu'on a un peu de recul aujourd'hui sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Typiquement, un espace de coworking simple, c'est compliqué à faire vivre, en fait.
Dans le modèle économique.
Ouais, dans le modèle économique, tout à fait. D'autant qu'en ruralité, on a tous plus ou moins des jardins. Donc, venir bosser dans un espace, finalement, il n'y en a pas assez en termes de besoins, en termes d'activité, en termes de présence pour justifier un lieu. Donc, ça ne peut pas être que ça. Voilà, ça, c'est juste un exemple tout simple.
Et du point de vue, du coup, des modèles économiques, Elisabeth, quels sont les différents types d'activités qu'on peut trouver dans des tiers-lieux? Qu'est-ce qui peut ramener des sous?
Source de financement, du coup.
Alors là, non, c'est les sources d'actifs, enfin, les sources de revenus qui viennent des activités. Non, parce que je me demandais, j'allais parler de, on a parlé d'espace de coworking, du coup. On a parlé, là, vous vouliez-vous plutôt café, asso, restauration, épicerie. Je parlais du quartier métisseur où c'était plutôt, enfin, c'était beaucoup café, asso et culture. Toi, tu parlais de la bascule.
La galoche.
Pourquoi la bascule? Ah oui, parce que la bascule, c'est des gens qui sont aussi porteurs de tiers-lieux, qui est très chouette.
Oui.
ça doit être un lapsus.
Ouais.
La galoche à Satonécan, qui est café asso et au coworking et animation.
Oui, avec une petite épicerie. C'est vraiment le côté bien associatif où il y a le club de bridge toutes les semaines ou ce genre de choses. Et des événements culturels, pas mal de spectacles. Voilà, une programmation très chouette aussi, ouais.
Voilà, on parlera du 96 également, enfin, dans l'exprimerie, on a plusieurs dynamiques. Voilà, ça fait des années que moi j'accompagne aussi des porteurs et qui me parlent de projets de tiers-lieux. Du coup, je me suis fait une sorte de cartographie d'un peu toutes les activités, types d'activités qu'on peut avoir dans un tiers-lieu. Je l'ai divisé en extérieur-intérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un lieu qui a un extérieur et qu'est-ce qu'on peut faire dans un lieu qui n'en a pas, donc juste à l'intérieur. En extérieur, peut-être que je vais commencer plutôt par l'intérieur, ça me semble plus logique. Allez, en intérieur. Donc, quand on a un lieu, qu'est-ce qu'on peut avoir comme activité qui peut être source de revenus? Déjà, histoire du lieu, architecture du bâtiment. Ensuite, art et culture. On peut avoir des ateliers partagés, on peut avoir faire des résidences d'artistes. Est-ce qu'il y a de l'habitat? Parce que dans un tiers-lieu, il peut y avoir de l'habitat. Donc, lieu de vie, mais également hébergement de loisirs ou hébergement d'urgence. Il peut y avoir des activités autour de la santé, du bien-être, la santé mentale. On peut avoir, et en général, il y a une grande salle multi-activité. Et il peut aussi y avoir des bureaux dédiés. Il peut y avoir de l'entrepreneuriat. Donc, on a parlé des Fab Labs. On peut avoir des clusters, c'est-à-dire des centres de Un cluster, c'est un regroupement d'activités, d'entreprises autour d'un secteur d'activité. Je vais y arriver. Pareil avec des bureaux dédiés. Il peut y avoir une partie entreprise d'insertion par l'emploi. En espace de travail intérieur, on peut avoir le coworking. On peut avoir des bureaux partagés, c'est-à-dire avoir de l'hébergement d'entreprises à l'intérieur. J'aime beaucoup d'ailleurs, à ce titre-là, l'immeuble EVA à Lyon. parce qu'il y a plusieurs étages dans lesquels il y a à la fois des bureaux partagés, il y a un espace de coworking, il y a tout un niveau qui est loué par une entreprise extérieure qui permet aussi de sécuriser en fait le loyer. Il y a une crèche, il y a une boulangerie, il y a un espace de restauration. Voilà, donc espace de travail, hébergement de société, et puis un espace savoir ou connaissance. Avec, il peut y avoir une librairie, il peut y avoir une bibliothèque, il peut y avoir une boutique. Et donc, à l'intermédiaire de ça, on a un espace rencontre et de restauration. Et si on regarde l'extérieur, donc l'espace de travail, bah justement, il peut être aussi en extérieur. Il peut y avoir un espace détente, un espace repas, un espace jeu, un espace avec de l'eau, un espace potager avec... de la production, il peut y avoir une activité propre de maraîchage, d'arboriculture, de permaculture. J'en dis pas plus parce qu'il y en a plein. Magasin, un espace de vente. Il peut y avoir un espace de biodiversité avec des nichoirs, des ruches, des hôtels à insectes, des mangeoires. Peut-être du LPA, la Ligue Protection des Animaux. Un espace ferme. Un espace de démonstration du zéro déchet et du compostage. Voilà pour les diverses activités et types d'activités qu'on peut retrouver dans un tiers-lieu. Il y a de quoi piocher, ce qui nous fait
vibrer.
Merci.
Absolument.
C'était ça.
Et il y a voilà, plein de modalités, finalement, pour faire vivre ça. Que ce soit proposer une adhésion, des tarifs de location ou de la prestation. Donc, là aussi, c'est voilà, les différents tiers-lieux jonglent sur ces différentes activités et vont les mettre
sources de revenus, oui.
Et sources de revenus et vont les mettre à la une aussi en fonction des temporalités. Il y a cette idée que souvent, hein, c'est que plus il y a d'événements, plus il y a de choses qui se passent, plus il y a des personnes qui gravitent et du coup qui peuvent aussi être intéressées et profiter des autres services. Donc c'est cette idée d'une place de rencontre. Voilà. Et pour continuer sur d'où vient l'argent, du coup, j'ai parlé effectivement de prestations de services. Donc il peut y avoir en louant des espaces, ou il peut y avoir de la vente de produits, voilà, des livres, des gâteaux, de l'artisanat, enfin voilà, un peu. Voilà, il peut y avoir aussi des adhésions, j'en ai parlé, voire des dons. Donc voilà, certains tiers-lieux comptent aussi sur du mécénat individuel ou du mécénat d'entreprise. Et puis voilà, une part du modèle économique des tiers-lieux repose aussi sur les subventions publiques, hein, des appels à projets, publics ou privés d'ailleurs. Donc là aussi... il y a plein de modèles différents qui peuvent exister pour faire en sorte d'équilibrer le résultat chaque année de ces chouettes lieux.
D'où l'importance d'hybrider un petit peu effectivement ce modèle économique.
De ne pas mettre les œufs dans le même panier. Ouais.
Exact.
Oui, et comme on l'a déjà dit, hein, mais selon l'implication de la collectivité, bah, l'argent pour que le lieu vive est plus ou moins importante. Donc il faut comprendre aussi dans les étapes que souvent c'est la location de retour à l'emploi, hein. Merci France Travail, qui permet de financer les premiers éléments pour créer les structures, que les appels à projets liés au tiers-lieu, il y en a, qui sont spécifiques. Après, sur des secteurs d'activité, on peut aller aussi à chercher de la subvention. Tu parlais du mécénat, juste pour préciser, il y a différents types de mécénat. Il y a du mécénat financier, c'est-à-dire que vraiment, c'est de l'apport d'argent, mais il peut y avoir du mécénat de compétences. Et dans les entreprises, il peut y avoir des personnes qui sont mises au service de tiers-lieux pour leurs compétences professionnelles. Voilà. Tu n'as pas parlé du crowdfunding, mais on est d'accord que ça en fait partie.
Tout à fait.
Dans les investissements de départ, on peut aussi mentionner les cigales, qui sont sur de l'investissement de 3 000 euros. Au départ.
Les cigales, c'est un regroupement de particuliers qui associent leur épargne pour faire des prêts ponctuels à des structures locales. Donc, qui sont des bonnes ressources pour des projets petits ou gros d'ailleurs, qui portent des valeurs sur lesquelles résonnent ces particuliers. Et j'avais très envie aussi de partager en quelques mots voilà, trois tiers-lieux du territoire. On a parlé de la Galoche, qui est un voilà, tiers-lieu associatif qui a émergé ces dernières années. Il a d'abord été d'ailleurs hors les murs pour pouvoir initier une communauté. Et ensuite, en 2023, aménagement à Satonécamp. Il y a une cinquantaine de bénévoles et une salariée dans ce bar associatif. Il y a le 96 à Trévoux, qui est en format de société coopérative d'intérêt collectif. Là, l'histoire est un peu plus ancienne, puisque ça a commencé, l'histoire commence en 2018 à peu près, et avec voilà, plusieurs, plein d'activités qui sont proposées. Il y a un restaurant voilà, où il y a plein, dans une zone commerciale, donc il y a beaucoup d'entreprises qui viennent, ou de salariés qui viennent y manger. Ils font des chantiers d'insertion pour créer le repas de crèche. Ils en font presque 200 par jour. Il y a la location d'espace, un coworking. Il y a un food lab, c'est-à-dire une sorte d'atelier qui accueille des entrepreneurs sur le métier de l'alimentation. Donc il y a des cuisines toutes prêtes du coup pour ceux qui veulent faire traiteur. Voilà, ils ont une cuisine
s'expérimenter.
Pro. S'expérimenter. Voilà, il y a plein d'ateliers d'alimentation, il y a des formations qui s'y déroulent. Donc là, c'est une belle histoire et bien complète aussi. Toutes ces infos, vous pouvez, enfin voilà, le 96, on mettra le lien du site internet sur les ressources, mais sinon vous tapez le 96 à Trévoux, vous le trouverez, c'est sûr.
Et vous pouvez aller manger le midi aussi là-bas.
Grave.
C'est chouette.
Oui. Et le troisième dont je voulais parler, qui est encore en émergence, qui s'appelle l'exprimerie, dont l'histoire remonte quand même il y a 4 ans. Et donc c'est un peu une convergence de plein d'associations trévolciennes, Clé de Lune, la Grenouille qui bidouille, la Roue Libre, le Ciné, la Passerelle, puis le 96 qui n'était pas loin non plus. Et qui est lui pour le coup un tiers-lieu à vocation culturelle, hein, sous format associatif, et qui vise à créer une salle de spectacle avec une belle programmation qui va jusqu'à 240 concerts par an. Il y a une quarantaine de bénévoles et ils ont du coup fait l'achat grâce à Village Vivant, voilà, qui est une organisation nationale et qui vient soutenir le financement de ce type de projet. Et voilà, vraiment au centre-ville de Trévoux, une grande salle. Ils sont en train de faire des travaux avec Force Chantier Participatif.
C'est le 33e, là, Chantier Participatif.
33 déjà.
33e, ouais.
Effectivement, en fait, dans notre coin, on en découvre beaucoup, de plus en plus. On parlait aussi de... comment dire La ferme et le marché du Courtil, puisque le Courtil est aussi considéré comme un tiers-lieu. Mais oui. Au-delà de toutes ces adresses et toutes ces gens qu'on peut retrouver, finalement, je crois que ce qu'on comprend aussi dans le message, c'est qu'aujourd'hui, c'est important de s'inscrire dans un réseau. On a de la chance aussi que vous nous ayez apporté ce réseau de l'économie sociale et solidaire dans lequel vous êtes impliqué et pour lequel vous œuvrez depuis longtemps. Et dans lequel on s'inscrit, on vient co-construire ensemble finalement aussi tous les liens du territoire. Quoi.
C'est le moment de s'arrêter. On est à la fin de l'émission. Merci infiniment pour tous ces témoignages, pour votre énergie, pour vos intentions, pour la coopération qu'on a entre tous. Mmh. Parce que c'est vrai qu'on se retrouve maintenant régulièrement aussi pour des temps partagés. Merci Ludo aussi.
Merci Elisabeth, merci.
Merci à vous tous.
C'était un plaisir.
À pour une prochaine émission.
On retrouve toutes les références en pied de l'émission, comme d'habitude.
Sur Grand Porteur.
Ouais.
Vous venez d'écouter Courant Porteur, initiative et résilience d'un territoire.
Une émission mensuelle pour faire émerger un mieux vivre ensemble résilient dans le Val-de-Saône. Vous pouvez retrouver l'émission et ses références sur radio-calade.fr.
Et pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site sonessence.fr, SAONE2SENCE.